VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Donald Trump et Kim Jong-un se retrouvent demain mercredi et jeudi à Hanoï pour un deuxième sommet. Lors de leur premier sommet inédit en juin dernier à Singapour, Trump et Kim se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Mais un peu de résultats concrets ont émergé depuis cette date. S'il est peu probable que le président américain et le dirigeant nord-coréen parviennent à se mettre d'accord sur ce que doit être l'élimination des armes nucléaires en Corée du Nord, leur nouvelle entrevue pourrait au moins leur permettre de déclarer la fin officielle des hostilités entre les deux Corées. La guerre entre le Nord et le Sud s'est soldée par un armistice et non par un accord de paix en bonne et due forme. C'était entre 1950 et 1953. Les États-Unis ont assuré lundi à l'opposant vénézuélien Juan Guaido qu'ils pouvaient compter sur leur soutien à 100% face à Nicolas Maduro et n'ont écarté aucune option contre le dirigeant Chavez lors de la réunion du groupe de Lima à Bogota. Le groupe de Lima, composé de pays hostiles au président Nicolas Maduro, a appelé à une transition démocratique au Venezuela en dénonçant la grave situation humanitaire, mais écarté l'usage de la force envisagée par Washington. Sur le continent, des centaines d'étudiants protestent aujourd'hui sur un campus du centre d'Alger contre le cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, sourd aux appels du premier ministre exhortant les manifestants à s'exprimer dans les urnes lors de la présidentielle du 18 avril. En annonçant le 10 février sa décision de briguer un cinquième mandat, le chef de l'État au pouvoir depuis 1999 a mis fin à de longs mois d'incertitude, mais aussi déclenché une contestation inédite depuis des années de par son ampleur nationale, sa mobilisation et ses slogans visant directement le chef de l'État et son entourage. Lendemain de vote relativement calme au Sénégal, après les premières tensions verbales nées de la guerre des chiffres, entre le pouvoir et l'opposition, les autorités en charge de la collecte et de la publication des chiffres officiels ont retardé les différentes parties, ont recadré les différentes parties avant d'annoncer le début du processus de recensement des suffrages département par département. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abadei.
La Commission nationale de recensement des votes a annoncé que les résultats provisoires de la présidentielle seraient connus ce vendredi au plus tard. Le juge Demba Kandji, qui en est le président, affirme que le travail de compilation des résultats a démarré et peut durer jusqu'à 5 jours. Face à la presse, le juge a été interpellé sur les chiffres avancés par le premier ministre Mohamed Boun Abdallah John d'une part et les 4 candidats de l'opposition d'autre part. Sa réponse a été claire. Pour lui, personne n'a le droit de proclamer des résultats. C'est la Commission nationale de recensement des votes qui en a la compétence. Pour terminer, le juge Demba Kandji a magnifié la maturité des Sénégalais qui ont voté dans le calme et la sérénité. Un vote dont les résultats provisoires seront connus en fin de semaine avant d'être validés par le Conseil constitutionnel. Au lendemain du scrutin, certaines organisations de la société civile ont également appelé les acteurs politiques à la retenue, ce qui n'a pas empêché le camp du pouvoir et celui de l'opposition de continuer à donner des chiffres, chacun de son côté. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
Le principal parti d'opposition nigérien a accusé le parti au pouvoir de manipuler les résultats de la présidentielle de samedi, alors que la commission électorale égrenait encore les résultats du vote lundi soir, donnant une légère avance au président sortant Muhammadu Buhari. Le Nigeria a voté samedi pour choisir son nouveau président entre Muhammadu Buhari, âgé de 76 ans, pour le Congrès des progressistes APC, qui affronte l'ancien vice-président Atiku Abubakar, 72 ans PDP, mais aussi ses députés et ses sénateurs. Au Bénin, les populations sont descendues dans la rue pour réclamer des élections législatives sans l'exclusion des partis d'opposition. Ce sont surtout les militants de l'Union sociale libérale de Sébastien Javon qui ont protesté contre la non-délivrance à leur parti et à plusieurs autres de l'opposition du certificat de conformité. Le point avec Ginette Ferradande, notre correspondante à Cotonou.
Très tôt lundi, des militants se réclamant du parti USL de Sébastien Javon ont pris d'assaut le pont à l'entrée de Porto Novo, la capitale du Bénin, ainsi que certains carrefours principaux de la ville. Leur revendication est exiger la délivrance au parti de l'opposition à qui il manque encore un document important, le certificat de conformité. Et sachant que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature est prévu pour aujourd'hui, les militants, par ce mouvement de protestation, voudraient attirer l'attention du gouvernement sur leur exclusion. Plusieurs localités du pays ont connu le même mouvement d'humeur en soutien à celui de Porto Novo. Et comme pour écouter les partis de l'opposition, Patrice Talon a reçu quelques représentants ce même lundi au palais de la Marina. Votre présence aux élections dépendra de vous, a lancé le président de la République, avant d'ajouter que l'absence de l'opposition sera malheureuse, mais cela ne sera pas de la faute du gouvernement. L'opposition pourrait tenir une marche de protestation ce mardi, toujours pour réclamer des élections inclusives. De Cotonou, Ginette Fleur-Dandé pour VOA Afrique.
Le sommet des chefs d'État de la région du Sahel sur le changement climatique, qui s'est tenu lundi à Niamey, au Niger, a adopté le plan d'investissement pour lutter contre les dérèglements climatiques dans cette partie du continent africain. C'est un plan d'environ 400 milliards de dollars américains sur une période de 12 ans. Les précisions de notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
L'étape qui suit l'adoption de ce plan, dont le coût global est de 392,709 milliards de dollars américains, est le plaidoyer pour son financement. Elle débute ce mardi, lendemain du sommet, au cours d'une table ronde des bailleurs de fonds. Table ronde pour laquelle les pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel sont très optimistes. Al-Mustapha Garba, ministre nigérien de l'Environnement.
Tous les messages que nous avons écoutés ont fait état de ce qu'il y a une certaine injustice et qu'il y a lieu de restaurer cette justice climatique. Les pays africains, particulièrement ceux du Sahel, étant ceux qui subissent le plus les effets pervers des dérèglements climatiques et qui le sentent au quotidien dans leurs conditions de vie, mais malheureusement qui n'en sont pas à l'origine donc des émissions de gaz à effet de serre à l'origine des réchauffements, donc de ces dérèglements. Et il y a donc cette volonté de justice qui a été fortement manifestée et il y a lieu de penser que la table ronde qui va s'ouvrir va connaître un succès.
Avec l'adoption de son plan, la Commission climat pour la région du Sahel prend ainsi le devant des deux autres commissions du même genre mises en place en 2016 au Maroc. Elle les devance du fait peut-être qu'elle est celle qui subit le plus les effets néfastes des dérèglements climatiques.
Excellences, mesdames et messieurs,
Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président de la Commission climat pour la région du Sahel.
La région du Sahel, d'une étendue de 10 millions de kilomètres carrés, s'étendant de l'océan Atlantique à la corne de l'Afrique, est soumise à une très forte variabilité climatique qui se traduit par la modification des régimes pluviométriques, l'apparition de phénomènes météorologiques extrêmes, de sécheresses récurrentes avec des effets perceptibles sur les terres, l'avancée du désert, les pâturages et la disponibilité en eau qui se raréfient.
La rencontre de Niamey a vu la participation de 3 chefs d'État sur les 17 que compte la région du Sahel. Les autres pays se sont fait représenter à des niveaux inférieurs. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat pour la région des Grands Lacs, a été l'invité spécial de son homologue nigérien Issoufou Mahamadou. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Cour internationale de justice CIJ a déclaré lundi que le Royaume-Uni devait rapidement mettre fin à son administration de Chagos, archipel britannique de l'océan Indien, qui accueille une importante base militaire américaine et dont la souveraineté est revendiquée par l'île Maurice. Dans un avis consultatif, les juges de la plus haute juridiction des Nations Unies ont estimé que le Royaume-Uni avait illicitement séparé l'archipel de Chagos de l'île Maurice. 9 miliciens tués en 2 jours dans l'est de la RDC. L'armée a fait savoir que ce sont 5 miliciens congolais et 4 membres du groupe ougandais musulman des forces démocratiques alliées, les ADF, qui ont été tués dimanche et lundi au cours de 3 attaques de leur position. Le major Mark Azukai, l'un des porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu, a par ailleurs indiqué que les forces congolaises ont capturé 5 maïmaï et un ADF.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
3 membres du gouvernement britannique ont menacé aujourd'hui de démissionner si la première ministre Theresa May ne s'engage pas à repousser la date du Brexit pour écarter le scénario d'une sortie brutale de l'Union européenne. Si la dirigeante conservatrice ne leur fait pas cette promesse cette semaine, les 3 membres du gouvernement menacent de démissionner pour empêcher ce qu'ils appellent un désastre. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon après-midi à tous, partout sur le continent.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.